France Inter.
Le 6-9 du week-end.
Il est 8h42, Pierre Veil, le club des correspondants étrangers.
Avec ce matin, Anne-Sylvaine Chassani, correspondante du Financial Times, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Beret, le correspondant à Paris de la radio-télévision suisse. Bonjour Michel Beret.
Bonjour.
Alors, un petit rappel, nous sommes dans la période de réserve avant le premier tour des législatives demain. Donc, on ne parle pas des sondages.
On va les museler.
Voilà, absolument. On ne parle pas des sondages, ni des partis en course, ni des enjeux de ce scrutin, mais mis à part le scrutin de demain, on peut évoquer l'actualité politique de la semaine écoulée, mais je vais vous surveiller de très près en direct. Les premières mesures de la présidence Macron ont dominé l'actualité cette semaine. D'abord, le dossier explosif de la réforme du Code du travail. Le gouvernement lui dit on va dialoguer avec les partenaires sociaux et en même temps sortent dans la presse des documents, des projets gouvernementaux, des mesures ultralibérales. Bref, le gouvernement ferait semblant de vouloir discuter, tout serait déjà bouclé avec une large autonomie donnée aux entreprises. Au cœur de tout cela, il y a la fameuse flexi-sécurité. Elle existe déjà chez vous en Grande-Bretagne?
Alors surtout dans les pays scandinaves. En Grande-Bretagne, c'est quand même un marché du travail plus flexible encore que ce qu'on appelle la flexi-sécurité à la scandinave. Ouais.
Oui. Michel Beret, chez vous en Suisse?
L'ensemble du dispositif dont il est question existe déjà en Suisse. En fait, en Suisse, le contrat est libre entre l'employeur et l'employé. C'est un cadre légal qui détermine ce vers quoi on peut pas, au-delà de quoi on ne peut pas aller. Il y a même des contrats oraux qui se font et qui ont une valeur légale. Donc, en Suisse, effectivement, une grosse partie du dispositif proposé ou à discuter, parce que si j'ai bien compris, on est quand même loin du compte pour l'instant, existe déjà et donc c'est à débattre.
Anne-Sylvaine Chassani, l'objectif donc en France, ce serait plus de flexibilité, licenciement plus facile pour que les employeurs n'aient pas peur d'embaucher. Et puis l'importance, semble-t-il, des accords d'entreprise sur le temps de travail et même peut-être sur le contenu du contrat de travail. Vous avez le sentiment qu'en France, ce genre de réforme, ça peut passer, alors qu'en France, quand même, nous sommes marqués par des divisions souvent idéologiques.
C'est vrai qu'il y a de fortes résistances. Ceci dit, je pense que le débat a eu lieu maintenant depuis plus d'un an, puisque plus d'un an depuis le rapport Combrexelle, je crois, qui a marqué cette volonté de mettre un peu tout sur la table et de redéfinir le dialogue social en France. Et ça, c'était très intéressant de penser que aujourd'hui, le dialogue social est trop pris en charge par des institutions au niveau national ou des personnalités au niveau national et qu'il faut redonner un peu plus de souplesse aux entreprises. Mais quand on dit entreprise, tout de suite on pense patron en France, etc. Mais en fait c'est entreprise, c'est-à-dire entre les chefs d'entreprise, mais également les représentants des salariés et les syndicats des entreprises, les délégués syndicaux au sein des entreprises et les employés en général. Donc c'est ce dialogue social au sein de l'entreprise qu'il faut réessayer de réinventer en France parce qu'il est assez inexistant. Finalement, ce code du travail français, il est très très détaillé, il rentre vraiment dans tous les détails, ce qui finalement empêche on n'a pas besoin d'avoir un dialogue social vraiment très élaboré dans les entreprises parce qu'il y a déjà ce cadre légal très très détaillé. Donc finalement, cette idée de simplifier le cadre et de remettre un peu au sein de l'entreprise ces discussions un peu fines sur le temps de travail, comment on s'organise. C'est pas le mal en soi.
Et donc vous écrivez dans votre journal, les Français, ils sont en train de changer. Ils bougent, oui, et c'est surprenant.
C'est surprenant. Alors, je pense que c'est du pragmatisme quelque part. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Parce que je pense qu'il y a encore des résistances, mais que c'est en train d'évoluer quand même dans les mentalités.
Michel Beret pour la radio-télévision suisse.
Le changement fait toujours peur, c'est certain. Et en France, plus qu'ailleurs, parce que, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, le code est tellement précis qu'au fond, il est pratiquement inutilisable à certains égards. Et on parle de partenaires sociaux et de dialogue social, ce qui est un abus de langage, parce que bien souvent, il n'y a pas de dialogue social, puisque la grève est un préalable au dialogue. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui doivent changer, et tout le monde le comprend bien, et effectivement, dans sa campagne, le président, lui, a fait allusion à ça.
Autre projet, la lutte antiterroriste, le gouvernement prépare un texte qui prévoit que les mesures d'exception actuelles dans le cadre de l'état d'urgence seront définitives, elles vont entrer dans le droit commun, dans le cadre d'une loi Selon un texte révélé cette semaine par le quotidien Le Monde, assignation en résidence, perquisition administrative, fermeture de lieux de culte, création de zones de protection et de sécurité, tout cela pourrait être décidé par le ministère de l'Intérieur, les préfets, sans le contrôle d'un juge judiciaire. La France, selon vous, oublie-t-elle les libertés fondamentales? Elle va trop loin?
Oui, je pense qu'il y a eu une dérive.
Anne-Sylvaine Chassagny, pardon, je mets les sous-titres.
Oui,
allez-y.
Non, c'est vrai. Franchement, je trouve qu'il y a eu une dérive de ce point de vue-là depuis deux ans, hein, depuis cette loi notamment sur le renseignement qui a en 2015 qui a permis aux services de renseignement de surveiller de manière massive tous les citoyens à partir d'éléments de suspicion assez légers. Donc ça, déjà, ça c'était très invasif. J'ai trouvé par rapport à ce qui existe même aux États-Unis ou en termes législatifs ou Royaume-Uni, la France va très loin dans la surveillance de ses citoyens. Donc ça, c'est un problème. Et puis alors maintenant, ce projet de loi, s'il était mis en place, bon alors ce n'est qu'un projet de loi, et à mon avis, il va y avoir un vrai débat, va aussi, je trouve, loin dans la mesure où en fait, l'état d'urgence, si vous parlez au syndicat de la magistrature qui a vivement réagi, vous explique que en fait, l'état d'urgence n'est pas très très efficace en fait dans la lutte contre le terrorisme. Et ce qui serait vraiment efficace, c'est de recruter des officiers de police qui peuvent faire des enquêtes, qui peuvent aider les juges antiterroristes. Ce qui serait vraiment efficace, c'est d'augmenter le nombre de juges antiterroristes, ouais, etc. Donc c'est cette capacité d'enquête judiciaire qui n'est, et donc retirer, donner plus de pouvoir au préfet, à la police, sans cette supervision judiciaire, à mon avis, est très néfaste.
Alors sur ce point, Michel Beuret, est-ce que la France va trop loin dans sa logique sécuritaire?
En tout cas, on a du mal à le comprendre, mais si on regarde quelques mois en arrière, on a du mal à le comprendre parce que si on prend pas en considération le fait qu'il y a des forces contradictoires en France qui n'ont pas du tout la même vision de la sécurité. On le voit bien maintenant depuis quelques années. Et donc, c'est la résultante de ces forces et ce tricotage. Encore une fois, quelques mois en arrière, pendant la campagne présidentielle, de celle-là on peut parler, qui a conduit à ça. Et donc on voit bien, Emmanuel Macron a tricoté là autour, et aujourd'hui, ce qu'il essaie de faire, enfin, ce qu'essaie de faire le gouvernement dans cet avant-projet de loi, il faut voir, on est encore loin du compte, hein, c'est de sortir de l'état d'exception en faisant de l'exception la norme, en quelque sorte. Et on ne sait pas dans quelle mesure, en fait, tout ça va entrer en vigueur réellement, mais dans les faits, ma consoeur a raison de dire qu'il est relativement prouvé que c'est peu efficace et peut-être faudrait-il trouver d'autres voies.
Michel Beuret, correspondant à Paris de la radio-télévision suisse, et Anne-Sylvaine Chassagny, correspondante du Financial Times. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au Club des correspondants. Merci.
Il est 8h50 sur France Inter.